Construire un monde plus humain, ça commence par nous, avec le Crédit Coopératif. Ensemble, nous avons ce pouvoir, le pouvoir du nous.
Que veulent ces marginaux?
Ils font ça en signe de protestation. Ils veulent changer le monde.
Changer le monde? Quelle drôle d'idée! Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.
Après l'ère industrielle, chez nous, il y a eu les grands procès et les boycotts.
Le boycott?
Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus. C'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir.
Ouais.
Ça commence par moi, l'émission.
Bonjour et bienvenue dans Ça commence par moi, l'émission sur Rage. Moi c'est Julien, je suis très heureux d'être avec vous pendant cette prochaine demi-heure. Parce que le monde de demain, c'est aujourd'hui que ça se passe. Nous allons répondre ensemble aux grandes questions de notre époque pour apporter des solutions efficaces et applicables directement dans notre réalité. Ça commence par moi, c'est l'émission de la transition éco-citoyenne qui donne la parole à des acteurs du changement. Ça se passe sur la radio Rage chaque semaine et vous pourrez bien entendu nous suivre sur les réseaux sociaux et retrouver le podcast sur iTunes, Spotify et sur rage.fr. Et aujourd'hui, on continue à creuser la thématique du vivre ensemble et je dirais même mieux du comment on peut se déplacer ensemble quand on sait qu'en moyenne, le taux d'occupation des véhicules sur les trajets vers le travail est d'environ 1,2 personnes par véhicule. On se dit qu'il y a une énorme marge de manœuvre dans ce domaine et que le fait de se déplacer ensemble est un sacré levier pour réduire notre empreinte écologique. Et effectivement, une piste loin d'être négligeable puisque le secteur du transport en France est à lui seul responsable d'environ 30% de l'empreinte écologique d'un Français. Pour creuser ces sujets, nous accueillerons Bastien Sibyl, qui est président de MobiCop, le site de covoiturage libre. Mais avant d'accueillir notre invité, moi je voulais vous partager la bonne nouvelle de la semaine, car c'est bien connu, on entend beaucoup moins la forêt qui pousse que les arbres qui tombent.
Encore une bonne raison de se réjouir d'un monde qui change avec Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres.
Et la bonne nouvelle de la semaine, c'est que la planète est de plus en plus verte. Depuis 2000, les surfaces végétales sur Terre ont progressé de 5%, soit l'équivalent de la forêt amazonienne. La principale contribution vient de la Chine et de l'Inde à travers le développement de massifs projets forestiers et de terres agricoles. Et cette augmentation, elle est loin d'être insignifiante puisqu'elle correspond à l'équivalent de l'ensemble de la forêt amazonienne, rien que ça. Alors oui, cette revégétalisation, elle ne suffit pas à compenser les impacts de la destruction des forêts primaires amazoniennes ou indonésienne, que ce soit en matière de captage du CO2 ou de protection de la biodiversité, mais elle montre une réelle volonté de la part de ces grands pays qui ne sont pourtant pas réputés pour leur proactivisme en matière environnementale. On lâche rien. Et moi j'accueille tout de suite Bastien Sibyl, président de MobiCop. Bonjour Bastien.
Bonjour Julien.
Comment vas-tu?
Très bien.
En pleine forme.
Ouais.
Avec ce soleil qui arrive, ça donne envie d'être dehors plutôt que dans un studio de radio, mais on est là et on va parler de MobiCop.
Super,
allons-y.
C'est parti, on y va.
MobiCop, plateforme de covoiturage à l'histoire riche.
Oui, c'est vrai. Alors en fait, c'est une histoire qui est maintenant un peu ancienne, ou disons ancienne, si on prend l'échelle de temps d'Internet où tout va tellement vite. Le démarrage de cette histoire, c'est 2011. C'est le moment où Blablacar, qui à ce moment-là n'était pas encore Blablacar, était un site qui s'appelait covoiturage.fr, a trouvé un modèle économique. Et ce modèle économique lui a permis de lever beaucoup d'argent pour se développer à l'international. Et donc, il a fallu qu'il change son nom. Et donc, covoiturage.fr est devenu Blablacar. Et ce modèle économique, eh ben, c'est celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est un modèle dans lequel il y a une commission qui est prélevée par la plateforme sur chacun des trajets qui est fait sur le site. Et ce qui s'est passé, et ça c'est un peu le fabuleux monde d'Internet et qu'on voit aussi dans les logiciels libres et dans tout ce genre d'initiatives, c'est qu'il y a une partie de la communauté des utilisateurs du site qui a forqué. Alors ça c'est le terme qu'on aime bien dans le monde du logiciel libre, c'est-à-dire qui a pris une autre voie. Et qui a été sur un autre site, covoiturage libre. Et du coup, ce qui a été conçu par un garçon qui s'appelle Nicolas Reynaud, en quelques jours dans son garage, entre guillemets, c'est pas du tout californien comme histoire, mais voilà, vraiment en quelques jours, et assez vite, en quelques mois, en fait, il s'est mis à y avoir plusieurs centaines de milliers de personnes sur ce truc-là, cette petite plateforme est devenue la deuxième plateforme de covoiturage en France. Et ça a commencé à ce moment-là.
La plateforme qui était vraiment l'antithèse de Blablacar, je me rappelle du logo avec le van, vraiment ambiance tranquille, on est là pour faire du libre, rencontrer des gens.
Exactement, on est là pour voyager, on est là pour discuter, on est là pour partager un moment qui est singulier en fait, parce que quand on se déplace, on fait plus que d'aller d'un point A à un point B, on est aussi en train de vivre quelque chose. Je ne sais pas si ça te fait ça toi aussi, mais quand tu es dans le train ou dans la voiture, tu as le paysage qui défile et du coup, tu as aussi l'esprit qui vagabonde et quand tu as quelqu'un à côté de toi, bah, tu lui fais partager ça. Donc, évidemment, pour nous, qui sommes des covoitureurs de la première heure, il y a dans le covoiturage un échange qui est beaucoup plus signifiant que juste partager les frais d'un trajet pour aller d'un point A à un point B, en fait. Mmh. Et c'est ça dont on a eu peur, que le nouveau modèle de BlaBlaCar vienne abîmer un petit peu, parce que les gens rentrant dans une relation presque un peu plus commerciale ou quoi, bah on a eu peur.
Utilitariste.
Utilitariste, voilà. Et alors, je dis ça avec beaucoup, il faut voir ce que BlaBlaCar a amené au covoiturage, hein, donc surtout de ne pas y voir de pic frontal par rapport à BlaBlaCar, sans lequel tout ça, ce serait probablement pas développé comme ça a été fait. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a eu envie de dire, je crois, en 2011, c'est... c'est bien qu'il y ait BlaBlaCar, mais c'est bien qu'il y ait autre chose qui permette aussi à cet esprit un peu singulier du partage de la mobilité de persister.
2011, depuis il s'est passé pas mal de choses, signe de l'évolution du temps, du projet, la plateforme a été renommée Mobicop.
Ouais, effectivement. Alors bon, il y a plein de choses derrière ce changement de nom, mais... peut-être la première chose à dire, c'est, et je pense que vous l'entendez dans le nom, dans Mobicop, il y a évidemment Mobi et Cop, et c'est Cop avec deux O, bien sûr. Et
Mobi comme mobilité, pas comme le chanteur. Hein.
Effectivement.
Ouais.
On est plutôt sur ces...
On est plutôt là-dessus.
On est plutôt là-dessus. Mais en tout cas, Cop, parce que on est devenu une coopérative. En fait, et c'est ça la transformation fondamentale, c'est jusque-là on était une association, et maintenant on est une coopérative. Alors ça a été un vrai débat chez nous, est-ce qu'on reste sous format associatif, est-ce qu'on passe sous un format coopératif, et pour le dire juste en quelques mots, mais peut-être qu'après tu me feras développer, mais en fait, le covoiturage, il y a un truc qui est difficile, c'est que pour que ça marche, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de gens.
Et oui.
Parce qu'il faut que tu aies suffisamment d'offres et suffisamment de demandes pour qu'on ait une chance qu'à un moment, les deux se matchent, en fait. C'est ce qu'on appelle, nous, le seuil de liquidité.
Bon, okay.
Super terme. Mais juste pour dire ça, pour dire, si tu n'as pas, sur une même zone, suffisamment de personnes, en fait, le service de covoiturage lui-même n'existe pas. Bon. Et nous, on estime qu'il faudrait qu'on ait sur l'ensemble du territoire français, c'est un peu une approximation, parce qu'après, on a des zooms sur certaines régions, mais enfin, en gros, c'est 1 500 000 comptes utilisateurs. Aujourd'hui, on a 350 000 comptes utilisateurs. Ce qui est pas mal, mais ce qui est insuffisant. Bon, donc, on s'est un peu retroussé les manches, on s'est dit, comment on va faire pour arriver à cette croissance du nombre d'utilisateurs? Et pour ça, en fait, on a besoin de moyens. Alors, on a besoin d'argent, ça c'est clair. Et on a aussi, et probablement surtout, besoin de gens qui s'engagent dans le projet.
Ben, c'est ça.
Et voilà. Et du coup, on s'est dit que c'était probablement plus proche de ce qu'on cherchait à faire, de proposer à des gens de devenir coopérateurs, c'est-à-dire d'acheter une part sociale, ainsi de financer notre action, mais en plus d'être ambassadeurs, d'être dans la gouvernance, c'est-à-dire de nommer le conseil d'administration, etc., plutôt que sur un format associatif. Mmh. Après, sincèrement, on aurait pu rester une association, ça aurait bien marché aussi, mais on a fait ce choix-là. Donc ça, c'est ce qui fait qu'on est passé sur le COP. Et pourquoi est-ce qu'on est passé? Parce qu'on aurait pu s'appeler, je sais pas, covoiturage COP, ou j'en sais rien. Mais on a aussi décidé à ce moment-là que les enjeux écologiques et sociaux liés à notre dépendance au pétrole était tellement important qu'il fallait qu'on adresse la question de la mobilité partagée, peut-être plus fondamentalement que juste la question du covoiturage, ce qui fait qu'aujourd'hui, on intervient aussi sur l'autopartage entre particuliers, je pourrais expliquer ce que c'est, et ce qu'on appelle la mobilité solidaire, pour éviter que ces mécanismes de mobilité collaborative, mobilité à l'heure de l'Internet, pour le dire comme ça, excluent un certain nombre de gens pour des raisons soit de localisation géographique, soit d'accès aux technologies numériques.
Et donc, parce qu'on valorise jamais mieux ce dans quoi on investit, vous ouvrez des parts depuis quelques temps, là.
Oui, c'est ça. Alors, c'est... En fait, depuis la semaine dernière, c'est vraiment la grande aventure qui vient de commencer. Effectivement, on propose à toute personne qui est intéressée par notre projet de venir prendre une part sociale. Une part sociale, c'est 100 euros, donc c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, mais c'est de l'argent dont on a besoin pour transformer la mobilité. Et on pense que vraiment, ça vaut le coup nous, pour nos enfants, pour tout le monde. D'investir ces 100 euros. Et alors, j'insiste, c'est vraiment pas... là, il y a 500 personnes, là, pour l'instant, qui ont pris une part sociale de la coopérative. Et c'est pas du tout nécessairement des utilisateurs de la plateforme. C'est pas forcément des bénévoles, parce qu'il y a pas mal de bénévoles dans la coopérative. Ça peut être juste des gens qui se disent, mais... ouais, c'est bien qu'il y ait un acteur qui se retrousse les manches et qui fasse ça sous un format coopératif. Et moi, je veux leur donner une capacité d'action, en fait. Et donc, c'est vraiment... c'est très large. Donc, on lance cette campagne. On a fait une petite vidéo parce que, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et toute l'équipe a été super parce que c'est du boulot. Et...
C'est complètement dans l'air du temps. On a tellement effectivement de mobilisation maintenant sur le fait qu'on doit prendre des décisions qui sont au-delà des petits gestes et qui doivent avoir une ampleur, au minimum une ampleur nationale, que soutenir une plateforme de covoiturage, ça a tout son sens. D'autant que tu disais que BlaBlaCar a trouvé son modèle économique, mais en fait, ils ne sont pas pour l'instant suffisamment stables. Ils ne sont même pas rentables. Donc, qui sait si un jour BlaBlaCar, du jour au lendemain, arrête de trouver comme ça des liquidités qui tombent du ciel. Qui sait ce que va devenir l'avenir du covoiturage?
Bon, à ce moment-là, on lui tendra la main, parce qu'on est dans une dynamique coopérative. Mais effectivement, et alors ce que tu dis, bon, ça me fait penser plein de trucs, donc je vais aller petit à petit, mais il y a tout un enjeu qui est celui de construire des communautés résilientes sur les territoires, qui soit capable, si on a un choc pétrolier important, si on a une crise financière importante, et il y a quand même des raisons de penser que ça peut arriver, si on continue à avancer dans la crise écologique, c'est important qu'on plante des petites graines, des petites communautés résilientes à ces crises-là, qui mettent en place des systèmes de partage de leur mobilité pour que dans le monde de demain, après la crise, on sache continuer à se déplacer d'une façon qui soit juste socialement et écologiquement.
Et économiquement intéressante aussi, puisqu'on le voit, de toute manière, le carburant ne va pas aller vers une baisse incessamment sous peu et même probablement plus jamais.
Bah, ce serait très surprenant, et je vais même, quitte à mettre les deux pieds dans le plat, dire que ce serait une mauvaise idée.
Bien sûr.
En fait, hein, puisque le carburant qu'on consomme, on le retrouve ensuite dans l'air, et ça amène ce qu'on sait sur le climat. Et donc, il y a un moment, si on veut internaliser les coûts écologiques de ces modes-là, ces pratiques-là, bah forcément, il faut que le carburant continue à monter. Alors, je dis ça, je suis désolé pour toute ma communauté qui nous écoute aujourd'hui, parce que c'est des gens, bien sûr, qui sont dans les voitures, puis on consomme tous, mais voilà, il y a un moment, je pense qu'il faut qu'on soit... faut qu'on soit responsable, en fait. Et du coup, on va laisser un héritage sur cette terre. Et si ça pouvait être un héritage qui n'est pas complètement plombé en CO2, bah, ce serait quand même mieux, quoi. Donc, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, de toutes les façons, la dépendance au pétrole, c'est un truc qui est problématique pour les années à venir, soit dans les prix, soit dans l'écologie. Donc, le plus on arrivera à partager... le moins on sera dépendant au pétrole, le mieux ce sera, en fait.
Et ben voilà, on est en plein dans le cœur du sujet. On se marque une pause. Toi, tu es venu avec une chanson, laquelle?
Alors, je suis venu avec une chanson de Miossec qui s'appelle « Nous sommes ».
Pourquoi celle-là?
Eh ben, parce que j'ai trouvé qu'elle était à la fois lucide sur le fait que, bon, bah, maintenant, il faut quand même qu'on commence à se bouger sérieusement pour sortir de ce qu'on voit advenir en termes écologie. Et en même temps, et puis tu le verras par le rythme et tout, mais... assez joyeuse, la chanson qui va plomber le moral. Et c'est un peu notre état d'esprit. C'est-à-dire, on peut se dire que, franchement, on a des gros soucis devant nous, et tout en restant optimiste sur le fait qu'on va quand même faire des trucs bien avec ça, quoi.
Eh ben allez, on y va.
Go.
On n'a plus le temps de regarder comme ça le niveau de l'eau monter. On n'a plus le temps car on est déjà tout éclaboussé. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui l'ont un jour effleuré. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps car ce n'est plus possible de freiner. On n'a plus le temps car c'est comme si les jeux étaient déjà faits. On n'a plus le temps mais on fait comme si de rien n'était. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes survivants, nous sommes les rescapés, nous sommes de ceux qui l'ont un jour effleuré. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on n'a plus.
C'est lui qui a plus le temps, c'était Music avec Nous sommes et vous êtes bien de retour dans Ça commence par moi l'émission et nous sommes toujours nous avec Bastien Sibyl, fondateur, président de Mobicop. Pour lancer cette seconde partie, moi je voulais revenir sur quelques chiffres. On a parlé d'urgence écologique et effectivement je pense qu'on est en plein dérèglement climatique et on peut difficilement le contester. Il y a quand même 30% du total des émissions de CO2 qui sont liées au transport en France. On a plus de 30 millions de voitures particuliers qui circulent sur nos routes, ça montre de l'urgence qu'il y a de repenser ça, de donner de la priorité au train. On parle même de carrément réduire notre capacité à se déplacer en avion. Et s'ajoute à ça le fait que le covoiturage, c'est pas forcément tout le temps une bonne idée au niveau écologique. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Oui, bien sûr, je vais le faire. Alors, pas du tout pour botter en touche, mais juste pour rebondir sur la présentation, le terme fondateur. C'est un truc auquel je fais attention parce que aujourd'hui, on est 500 coopérateurs et c'est tous ensemble qu'on a fait ce mouvement pour créer cette coopérative. Donc, moi, je me considère pas comme le fondateur de l'initiative, mais plus comme la personne qui aujourd'hui est mandatée par l'Assemblée générale pour.
Tu fais bien de le dire.
Prendre les décisions qu'on a à prendre. Et on est bien dans une démarche coopérative. Mais ta question, parce que j'y reviens, parce qu'elle est évidemment extrêmement...
C'est pas la solution miracle, le covoiturage, non plus.
Alors, franchement, ça dépend de quelle mobilité on parle. Okay. Donc, je pense qu'il faut, il faut faire l'effort de rentrer un peu dans la complexité de ce que c'est que se déplacer aujourd'hui. La voiture est un mode de déplacement polluant. Okay, donc plus on a de gens dans les voitures, moins on a de voitures sur la route et donc moins il y a de pollution. Donc on peut se dire dans l'idée que le covoiturage est une action plutôt écologique. Maintenant, si en développant le covoiturage, on vient concurrencer le train, par exemple sur la moyenne et la longue distance, là, on n'est plus dans un cercle vertueux écologique. On est juste en train de sortir les gens dans le train, du train, pour les mettre dans des voitures.
Le train étant le mode de déplacement plus écologique si on prend pas en compte le vélo, etc.
Tout à fait. Tout à fait, parce qu'il est encore plus partagé que la voiture. On va bien dans une rame de train, on est quand même très nombreux, ouais. Puis c'est pas les mêmes sources d'énergie. Et ça, moi, je préfère être vraiment honnête par rapport à ça. Si l'idée, c'est de se dire, on développe le covoiturage pour sortir les gens du train, moi, j'y vois pas la raison d'être de Mobicop, qui est sa raison sociale, qui est la question écologique et sociale. Donc, nous, on n'ira pas là-dedans. Par contre, il y a des modes de mobilité sur lesquels, oui, le covoiturage est toujours positif. Et là, je pense notamment aux déplacements du quotidien, domicile, travail. Pourquoi ? Parce que sur beaucoup de ces déplacements-là, il n'y a pas de solution de transport en commun. Et donc là, pour le coup, ou de solution, je dirais, viable, c'est-à-dire on ne met pas deux heures pour aller. Hein, donc, les gens prennent la voiture. Et on le voit bien, tu rappelais les chiffres en introduction, 1,2 personnes par véhicule, c'est quand même pas beaucoup. Et donc là, à chaque fois qu'on met deux personnes dans une voiture, c'est cool. Parce que ce que montre l'histoire récente, là, c'est que quelle que soit l'énergie qu'on mette pour réduire la consommation d'essence des véhicules, ça n'a autant d'impact que si on met deux personnes dans la voiture. Donc le mieux qu'on puisse faire, ça sert à rien d'essayer de faire baisser la consommation. Ce qu'il faut, c'est juste mieux partager les véhicules. Donc là, oui, le covoiturage est positif.
Sur des trajets qui, en plus, sont réguliers, avec des heures fixes sur toute l'année.
Tout à fait.
Pas de surprise.
Mais qui sont les trajets qu'on a vachement de mal à adresser aujourd'hui en covoiturage. C'est pas pour rien que Blablacar a pas lancé ça au début. Hein. Au début, Blablacar, c'est quand même la moyenne et longue distance. Nous, covoiturage, moyenne et longue distance, parce que l'acte de covoiturage du quotidien, il est plus court. Donc déjà, l'incitatif économique est moindre. C'est-à-dire, là, peut-être que vous allez partager les frais, ça va être 1 euro. Donc attendre votre voisin, vous dérouter pour aller le chercher et tout pour 1 euro, alors que vous êtes tranquille dans votre bagnole en train d'écouter Miossec, puisqu'on en parlait tout à l'heure, vous allez moins le faire. Bon, donc c'est un covoiturage qui est beaucoup plus difficile à adresser. Et c'est la raison pour laquelle on essaye de négocier avec les pouvoirs publics. Là, il y a une loi d'orientation sur les mobilités qui est en discussion au Parlement à l'heure actuelle, de voir si on ne peut pas avoir une puissance publique qui incite au covoiturage en le subventionnant un petit peu, de façon à ce que les gens aient une incitation d'ordre économique. Et la deuxième... Pardon,
je t'ai... Non, vas-y, ouais. C'est moi.
Juste la deuxième, pour le dire, c'est il y a la question économique. Et puis, les gens, ils ont bien raison, ils sont sensibles au temps. Et donc, ce qui peut les inciter à partager leur voiture, c'est si on a des voies réservées aux personnes qui partagent leur voiture, et que donc, ils savent que, OK, ils mettent 3 minutes pour aller chercher leur voisin ou leur voisine, mais après, ils vont gagner du temps sur la route. Et en plus, c'est cool, parce qu'ils vont pouvoir discuter avec leur voisin ou leur voisine.
Comme ça se fait en Californie, par exemple, où il y a toujours une ligne carpooling, ça s'appelle. Ouais.
Ouais.
Et il n'y aurait pas un levier à activer du côté des entreprises? Ça me fait penser à rouler malin, je crois que c'était ça, ouais. Qui avait une offre spéciale entreprise pour justement proposer un peu des plateformes un peu sécurisées, privées,
Tout à fait, c'est des choses sur lesquelles on travaille. On est plusieurs en France, hein. Il y a des petites entreprises aussi qui travaillent bien là-dessus. Hein. Et voilà, et après, c'est là qu'on attend de voir ce qui va sortir de la loi des mobilités, parce que l'acteur public a aussi une capacité de régulation des entreprises pour qu'elles mettent en place des plans mobilité, pour que, par exemple, le covoiturage soit pris en charge à 50% par l'employeur, comme l'est aujourd'hui le pass
Navigo.
Ouais. Navigo pour l'Île-de-France.
Ouais, t'as raison. C'est rigolo parce qu'on parlait de ça avec une grande entreprise parisienne où là, le plan mobilité va être notamment de dire stop au parking.
Ouais.
Et c'est un sacré changement quand même.
Ah bah c'est clair. Mais du coup, ce sacré changement, il est vraiment culturel en fait. Ouais. Quoi. Il faut surtout que les gens comprennent que finalement, être dans le partage... de sa mobilité, mais d'autres choses. Nous, on travaille sur la mobilité, mais il y a d'autres zones de partage. Changer un peu son rapport au monde et du coup, être dans du mieux-être aussi. C'est-à-dire que la question du covoiturage ou du partage de la mobilité, c'est pas une question technique, c'est pas... Bon, bien sûr, il y a de la technique, etc. Bon. Mais c'est surtout une question de transformation culturelle. Et ça, c'est une bataille...
Mais tu l'as dit tout à l'heure, en fait. Qu'est-ce qu'on oppose ? Est-ce qu'on préfère avoir un tout petit peu plus de praticité, de rapidité, parce qu'on est tout seul à décider à quel moment on entrera dans la voiture, quelle musique on va écouter et quand est-ce qu'on arrivera sur place ? Ou est-ce qu'on préfère aussi ce lien à l'autre et le fait de se mettre à disposition, de se mettre au service, de se rassembler ? En fait, la décision, elle est là.
C'est exactement ça. Et moi, je crois qu'on arrivera à transformer les comportements des gens si eux-mêmes transforment un peu leur façon d'être heureux, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le truc soit une contrainte. Il faut juste se dire, OK, comment est-ce que je suis vraiment heureux, en vrai ? Est-ce que je suis vraiment heureux parce que je suis tout seul dans ma bagnole ? Alors, c'est vrai que j'écoute la musique que je veux, je n'ai pas besoin de négocier avec mon voisin, de savoir s'il veut écouter ça, quoi. Mais est-ce que j'ai le bonheur dans cette solitude-là, dans laquelle ce que j'échange surtout avec mon voisin, c'est ce que j'échange avec mon voisin de devant, c'est-à-dire le gaz qui sort de son pot d'échappement qui tranquillement rentre dans sa voiture. Ou est-ce que c'est qu'on ait moins de voitures dans les rues et que, par contre, il y a quelqu'un qui soit assis à côté de moi, avec lequel un coup je serais d'accord ou un coup je serais pas d'accord, mais c'est pas grave, j'aurais une discussion. Et pour moi, ça rejoint des discussions plus philosophiques et qui concernent plein d'autres secteurs que la mobilité, qui est finalement... est-ce que avoir moins et être plus, c'est pas ça qu'on veut ? Est-ce que finalement, si j'ai moins de voitures, j'ai pas ma voiture, ok, par exemple, moi j'ai pas de voiture. Mais est-ce que l'important c'est que j'ai une voiture ? Ou est-ce que l'important c'est que je sois en voyage ? Est-ce que c'est l'avoir ? Ou est-ce que c'est l'être en voyage ? Et moi je crois que quand un peu collectivement on se sera dit qu'on préfère être en voyage à avoir un système de pot d'échappement finalement, on aura avancé.
Ça préfigure finalement la société de demain. J'ai l'impression que cette expérimentation à travers le covoiturage, c'est ces deux valeurs dont on entend de plus en plus parler. C'est l'usage plutôt que la propriété. Mm-hmm. Hein, donc, est-ce qu'on est vraiment obligé de rentrer dans le moule des publicités qu'on voit à longueur de journée, où finalement les constructeurs rares sont ceux qui mettent plusieurs personnes dans les voitures qui nous vendent, hein, dans les publicités. Ouais, c'est toujours une personne trop heureuse dans sa voiture avec sa musique, son port USB, mais c'est une personne. Mm-hmm. Et est-ce qu'en plus on accepte effectivement d'avoir moins de biens et plus de liens et de se relier à l'autre et de raconter ça et d'occuper différemment nos trajets. Si on arrive à s'adapter à ça et à être heureux de s'adapter à ça, à mon avis, on arriverait peut-être même à être heureux dans la société de demain, non ?
Moi, je crois ça. Et alors, si en plus, je rajoute un petit truc à ce que tu viens de dire, si en plus les plateformes qui nous permettent d'être dans l'usage plutôt que la propriété, si en plus ces plateformes pouvaient ne pas être la propriété de quelques actionnaires, mais une propriété collective, alors là, on sera allé au bout de notre raisonnement, parce que la transformation d'une économie de la propriété vers une économie de l'usage, il y a plein de gros acteurs qui l'ont bien compris, et du coup, qui ont bien investi, et qui, du coup, sont venus à privatiser des choses qui étaient de l'ordre vraiment de la solidarité. Je sors une seconde de la question de la mobilité, mais prends un truc comme Airbnb. Jusqu'à avant Airbnb, en fait, quand tu voulais partager ton chez toi, ton canapé ou quoi, t'en parlais à tes copains, tu en parlais à leurs copains, et puis si un mec, je sais pas, qui habite à Lyon, venait à Paris, on s'appelait les uns les autres.
T'avais la plateforme Couchsurfing qui est en train de mourir presque.
Exactement, et il y avait Couchsurfing qui était une association, qui était géniale, qui a été transformée en entreprise.
Ouais, c'est une...
Donc tu faisais ça, et en fait, il y avait un côté... Alors, évidemment, c'était beaucoup moins puissant, parce que sur Airbnb, je ne sais plus combien d'utilisateurs, mais c'est plusieurs dizaines de millions. Donc, effectivement, ces plateformes ont amené une puissance au fait de partager qui est hyper forte. Mais en même temps, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont privatisé un acte qui était un acte de solidarité. Et ça, je trouve que c'est vachement dangereux, en fait. Parce qu'en plus, il y a un truc un peu insidieux là-dedans. C'est que jusque-là, c'était pas vraiment monétisé comme histoire. Tu le prêtais, ton canapé, t'étais pas en train de te dire « Ah ouais, je vais acheter un 4 pièces parce que de toutes les façons, la 4e pièce, je vais pouvoir la mettre en location sur Airbnb. » Tu vois, t'es pas dans ce genre de raisonnement-là dans ta tête. Or, eux, avec ce qu'ils ont amené, ils ont changé ces pratiques-là. Et du coup, ils ont fait un changement culturel qui, pour moi, est l'inverse du changement culturel que le partage et les plateformes de partage devraient amener, en fait. Voilà, donc pardon pour la digression.
Mais c'est un super exemple. Ouais. Tu nous as vachement bien vendu le fait que Mobicop, c'est un acte révolutionnaire, un acte même de construction massive du monde de demain. Comment on fait, là, toutes les personnes qui nous écoutent vont acheter une part, c'est sûr. Comment ils s'y prennent?
Alors, d'abord, ce serait super. Donc, évidemment, allez-y, on a absolument besoin de vous. Et j'insiste, pas juste pour la question de la part sociale. C'est important parce qu'on a besoin de financement et sans argent, c'est quand même compliqué de faire les choses, faut pas se mentir. Mais c'est aussi super important qu'il y ait des gens qui soutiennent la démarche. Donc, comment faire? On a un site qui s'appelle lacampagne.mobicop.fr. Et voilà, en quelques clics, on prend une part. Et encore une fois, c'est 100 euros, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, c'est ce dont on a besoin pour transformer la mobilité. Et en même temps, je veux juste expliquer ça, pourquoi 100 euros, parce que ça me semble intéressant.
Il nous reste 10 secondes.
Ok, vas-y. C'est extrêmement simple. Ouais. C'est vous rentrez dans une coopérative pour être acteur de la coopérative, il faut que vous puissiez venir aux assemblées générales. Pour qu'on organise les assemblées générales, qu'on vous y invite, on a besoin, ça nous coûte un peu d'argent. Et donc, du coup, c'est pour ça que la part, elle est à 100 euros, parce que sinon, ça serait trop d'argent dépensé pour vous venir. Ouais. Voilà.
Et pour faire du covoiturage en attendant, c'est sur mobicop.fr. Merci, Bastien.
Merci.
Et voilà, ça commence par moi, l'émission, c'est terminé. Je suis ravi d'avoir passé ce moment en votre compagnie et de vous avoir donné de nouvelles manières d'agir, de construire la société de demain avec une énergie folle. Merci encore à Bastien, merci à Raph aux manettes, merci à Raj pour son soutien. Si vous voulez réécouter ou partager cette émission, je vous donne rendez-vous sur Raj.fr, sur Spotify et sur iTunes. Continuons à construire un monde meilleur, continuons à être heureux et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!
Construire un monde plus humain, ça commence par nous, avec le Crédit Coopératif. Ensemble, nous avons ce pouvoir, le pouvoir du nous.